Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je vous retrouve avec plaisir pendant une heure pour partager vos expériences de vie. Et à mes côtés, ma camarade Ombline.
Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Ici, comme vous le savez, on s'intéresse à vous, à vos parcours de vie et à ce que vous traversez, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Plus de 100 000 personnes sont touchées par la sclérose en plaques en France. Une maladie neurologique dont les symptômes sont multiples et qui varient d'une personne à l'autre. Troubles de l'équilibre, moteur et visuel, fatigue extrême, douleurs musculaires. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune imprévisible qui se révèle par poussée, c'est-à-dire par réaction inflammatoire. Quel traitement existe aujourd'hui contre la sclérose en plaques? Quel est le quotidien des personnes qui en souffrent? Aujourd'hui 30 mai, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques, une journée de sensibilisation importante et l'occasion de parler de cette maladie invalidante. Sclérose en plaques, comment vivre avec? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Et on vous écoute aujourd'hui comme chaque jour au standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute pour nous écrire. Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Marine Barnerias sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, chère Marine.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Alors Marine, vous avez 25 ans et c'est à l'âge de 21 ans que l'on vous a diagnostiqué une sclérose en plaques. Vous connaissiez cette maladie avant ?
Alors absolument pas, la sclérose en plaques était une maladie complètement inconnue pour moi, alors que c'est quand même la maladie qui cause le plus d'handicap après les accidents de la route. Ouais. J'avais souvent vu cette maladie à la télé ou dans des films et je me disais que c'était pas possible qu'un jour ça m'arrive.
Mmh. Quels ont été les premiers symptômes et vos premières prises en charge par rapport à cette maladie ?
Eh bien écoutez, mes premiers symptômes, ça a été simple, je me suis retrouvée dans une boîte noire, puisque du jour au lendemain, j'ai commencé à perdre la vue à plusieurs reprises. Et en fait, c'est une maladie, comme vous l'aviez expliqué très bien au début de l'émission, qui est par poussée. Donc en fait, moi j'ai eu une première poussée où j'ai perdu la vue une première fois. Et quelques mois après, j'ai eu une deuxième poussée qui m'a fait perdre encore la vue. Et c'est à partir de cette deuxième poussée-là qu'on m'a diagnostiqué ce fameux mot qui claque, la sclérose en plaques.
Alors j'imagine combien ces poussées se traduisant par ces fameuses boîtes noires dont vous parlez étaient sans doute d'une violence inouïe. Qu'avez-vous ressenti une fois que le diagnostic a été posé ?
Eh bien, écoutez, en fait, je pense comme toute maladie confondue, quand les maladies, on les prévoit pas, on les commande pas. Hein. Oui. C'est pas quelque chose qu'on attend. Donc, en fait, tout simplement, quoi qu'il arrive, que ce soit la sclérose en plaques ou que ce soit une autre pathologie, on est scotché, on est à terre. Après, c'est une maladie qu'il faut rappeler auto-immune. Donc, en fait, c'est une maladie qui détruit notre propre, on se détruit nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est nos anticorps qui viennent attaquer nos nerfs et qui viennent couper la connexion. C'est pour ça qu'on appelle cette maladie sclérose en plaques, parce que ça fait des plaques sur notre système nerveux. Mmh. Et donc en fait, au début, moi, ça a été le choc total. Je me suis dit, mais j'ai 21 ans, je vais finir ma vie soit aveugle, soit handicapée de la tête aux pieds. Mmh. Et il y a vraiment un tableau noir qui s'inscrit en face de nous. Et après des mois, parce que c'est vrai que les maladies, il faut réussir, c'est comme un voyage. Il n'y a pas une sclérose en plaques qui se ressemble, il n'y a pas un cancer qui se ressemble, il n'y a pas une maladie qui se ressemble. Et j'ai commencé à me dire, écoute Marine, déjà, essaye d'apprivoiser ce qui vient d'arriver dans ta vie et d'essayer de commencer par l'accepter. Et ça, c'est un long voyage.
Ça doit être un long voyage et une acceptation particulière. Mais on verra que vous êtes une jeune femme très dynamique et que ce voyage, vous avez décidé de l'entamer il y a quelques mois déjà. Vous dites que votre premier réflexe a été de taper sclérose en plaques sur Internet et qu'il ne faut surtout jamais faire ça. Expliquez-moi pourquoi.
Absolument, en tout cas je parle à toutes les personnes. Déjà j'aime pas dire le mot sclérose en plaques, moi je préfère dire que j'ai une petite rosie dans ma vie, donc j'appelle à tous les fleuristes qui vont nous écouter ce jour mondial de la sclérose en plaques, surtout à ne pas faire ce que j'ai fait justement quand j'étais dans mon lit d'hôpital. Quand on connaît pas, on va chercher sur les réseaux sociaux, et c'est la pire des choses à faire, parce que ce qui ne va pas et toutes les plus grandes de nos peurs sont sur Internet, sont sur les réseaux sociaux. Donc il y a un espèce de tableau noir du futur qui arrive. Et oui, c'est possible, tout est possible dans la vie. Mmh. C'est possible de voir la maladie comme notre voisin peut la décrire, mais c'est aussi possible de se créer sa propre vision et sa propre cohabitation avec la maladie. Donc vraiment, j'encourage les gens qui viennent d'être diagnostiqués d'autres maladies aussi, de ne pas taper le mot de leur maladie sur les réseaux sociaux, c'est très important pour eux.
On vous a proposé de nombreux traitements, hein, Marine, et de nombreux médicaments que vous refusiez au départ, comme si vous ne vouliez pas avoir la maladie, que vous ne l'acceptez pas.
Alors, non, le refus du traitement, déjà, c'est quelque chose de très personnel et j'insiste bien là-dessus, surtout par rapport aux gens qui vont nous écouter, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est pas moi, ma décision n'est pas mieux qu'une autre personne. La décision de monsieur X ou de madame Y n'est pas meilleure qu'une autre. Il faut s'approprier ses propres décisions. Moi, aujourd'hui, je communique absolument pas sur le fait que je prends pas de traitement. Ça a été ma propre décision.
Ouais.
Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, Marine, avant de prendre des traitements, avant de partir dans ce chemin justement scientifique qui est bon, hein, que je ne critique absolument pas, je me suis dit déjà qui je suis.
Oui.
Qui je suis. J'ai une maladie qui est auto-immune, c'est-à-dire que c'est mon propre organisme qui s'auto-détruit. Je vais d'abord commencer à comprendre qui je suis et aller chercher la solution en moi. Et donc en fait, je me suis dit qu'est-ce que j'aime dans la vie ? J'ai un corps qui me lâche, est-ce que j'écoute ce corps-là ? J'ai un esprit qui est indomptable et pour moi, on a tous une âme. Et donc, je suis partie un petit peu découvrir qui j'étais à travers un voyage initiatique.
Oui.
Et en revenant de ce voyage-là, je ne me suis pas dit « c'est le développement personnel qui est mieux que le développement scientifique ». Je me suis dit « les deux sont importants ». Et c'est vraiment fondamental. Et pour moi, aujourd'hui, mon message, ce n'est pas la science d'un côté et le développement personnel de l'autre, c'est dangereux. C'est juste de replacer l'humain au cœur des choses.
Mmh.
C'est de replacer l'homme au cœur. Quand on est atteint de n'importe quel type de maladie, c'est de se dire, avant de se dire quel traitement on va prendre, c'est de se dire qu'est-ce qu'on aime dans la vie.
Mmh.
Et quand on a cette réponse-là, et ben après, on peut prendre le meilleur des traitements.
Vous restez en ligne avec nous, Marine. Nous allons parler de ce voyage, justement, et de votre envie de le raconter dans votre livre « Ses pères héros, le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie », disponible aux éditions Flammarion.
Europe 1.
Vivre avec la sclérose en plaques, peut-être un combat de tous les jours, c'est votre histoire. Vous nous racontez au 3921 et vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous échangez avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h. Vous nous racontez votre vie depuis qu'on vous a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et nous vous lisons aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Marine Barnérias, auteure de l'ouvrage « Ses pères héros, le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie » aux éditions Flammarion. Marine, comment a réagi votre entourage et le milieu médical quand vous avez exposé ce souhait de partir faire un tour du monde avec voilà, cette maladie qui venait de vous être diagnostiquée?
Bah écoutez, je pense que comme tout parent, et quand il y a de l'amour et quand il y a aussi des connaissances médicales, et quand on ne suit pas forcément ce que les autres ont prévu, ça fait peur. Parce que, indépendamment, moi, de ma volonté de partir, j'ai eu aussi, j'avais peur aussi dans mon cœur de me dire, punaise, j'ai une maladie qui peut me paralyser du jour au lendemain.
Ouais.
Le tableau qu'on prévoit du futur de ma vie n'est pas forcément tout rose. Loin de là, il est plutôt noir. Donc, il y a cette peur qui est au ventre. Après, la réaction de l'entourage a été très différente. Il y a eu un entourage qui était très sceptique de la décision, disant « Mais Marine, tu fuis la réalité en partant.
Ouais, » ouais.
Et il y avait une partie de mon entourage qui était plutôt en disant « Mais on va t'accompagner, même si on flippe, même si on ne sait pas ce que tu ressens, on va te faire confiance. On va te faire confiance sur ce qu'il y a dans ton cœur. » Et moi, aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est l'importance de s'écouter. C'est quelque chose qu'on oublie quand on est atteint d'une maladie neurodégénérative et de toute pathologie confondue. On oublie de s'écouter parce que dès qu'on est atteint de quelque chose, quel qu'il soit dans la vie, et surtout d'une maladie comme celle-là, la peur ça devient notre meilleur ami. Et quand la peur commence à dicter nos choix, et ben là, on s'éloigne de tout ce qui peut nous faire du bien.
Mmh.
Et ce livre-là, cette aventure-là n'est absolument pas moralisatrice. Je ne dis pas qu'il faut partir pour cohabiter avec une maladie. Cette aventure-là m'a fait découvrir une seule chose, c'est l'importance d'écouter notre petite voix intérieure qui bouillonne en chacun d'entre nous. Il y a des stades d'évolution différents de la sclérose en plaques. Il y en a qui ont un stade plus évolutif que d'autres. Mais le point commun qu'on a tous, c'est de réussir à encore avoir un cœur qui bat. Et ce cœur-là, Ils nous communiquent des choses, ils nous communiquent des messages, ils nous communiquent des envies. Et ces envies-là, il ne faut jamais les lâcher.
Alors, on s'imagine bien qu'une partie de l'entourage avait peur que vous partiez parce que vous vous exposiez tout de même au fait d'avoir une poussée, même en voyage. Mais vous avez fait, tout au long de ce voyage, de superbes rencontres. Vous avez eu aussi de grands moments de solitude. Et vous parlez sans doute de tous ces moments-là, du fait de se connaître soi-même, de s'écouter soi-même. Il vous a aidé à appréhender la maladie, ce voyage. Vous n'en pouvez plus de parler de sclérose en plaques, que cette étiquette vous colle à la peau. Alors, vous lui avez donné un autre nom, Rosie. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Moi, vous voyez, Olivier, je pense que déjà dans la vie, indépendamment de la maladie, c'est très compliqué d'être connecté à soi-même avec tous les réseaux sociaux, tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Donc en plus de ça, quand on a un intrus qui arrive dans notre vie et qu'on lui a rien demandé, déjà moi j'avais l'impression de vivre déjà avec une autre personne que je détestais, que je voulais montrer à personne, que je voulais cacher, que j'avais envie que je voulais absolument pas que les gens dans la rue ou que les gens dans mon entourage, dans mon travail, puissent se dire « Punaise, Marine, elle est atteinte d'une sclérose en plaques. » C'était l'enfer pour moi. Et donc en fait, je me suis dit « Je vais partir pour déjà, je partais à deux et je voulais revenir unie avec ma maladie et moi-même. Arrêter de lutter contre les choses, mais être pour la vie. Et en fait, quand on lutte contre les maladies, au final, on ne les accepte jamais et le processus d'acceptation, il est beaucoup plus long. Et donc ce voyage, déjà en solitaire, il me permettait de me reconnecter et de revenir avec cette sclérose en plaques dans ma vie. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait la puissance des mots. Aujourd'hui, on peut tuer les gens avec des mots. Et je vous assure que moi, quand on m'a diagnostiqué la maladie, après, quand je suis allée regarder sur les réseaux sociaux ce que c'était, tous les mots qu'on emploie sont des mots qui peuvent nous dévaster. Et le mot, déjà, sclérose en plaques, je le trouve tellement moche. C'est comme cancer, c'est comme divorce, c'est comme chômage.
Rosie, c'est plus joli.
Sclérosée. Et Rosie, punaise. Déjà, dans sclérose, il y avait quelque chose de plus joli, c'était rose. Pourtant, je ne suis pas très girly comme Nana. Et oh là là, je vais voyager avec Rosie. Et à partir de ce moment-là, ça paraît un peu ridicule comme ça, mais je vous assure que quand on commence à mettre des mots beaucoup plus jolis sur les choses qu'on trouve très laides, eh ben, la vie est complètement différente. Et donc, j'ai commencé à cohabiter avec Rosie.
Mais écoutez, Rosie, et vous avez raison, sonne beaucoup mieux. Et vous êtes rentrée avec Rosie. Et je ne sais pas si c'était vraiment votre amie, mais en tout cas, c'était quelque chose que vous acceptiez finalement. Aujourd'hui, comment vous vivez avec la maladie ? Quelle jeune femme êtes-vous ?
Écoutez, aujourd'hui, ma maladie, elle est présente dans ma vie. Elle est toujours présente dans mon cerveau. J'ai toujours des taches blanches qui évoluent dans mon cerveau. Maintenant, moi, aujourd'hui, la vision que j'ai avec Rosie, c'est que je ne sais pas ce qui est fait de demain. C'est-à-dire que demain, je peux être handicapée, je peux perdre mes jambes, je peux perdre ma main gauche, je peux perdre encore ma vue. Je vis dans l'imprévu de ce qui peut se passer. J'essaye de lever le pied sur mes activités professionnelles et de faire des choses qui ont du sens pour moi, de faire des choses qui vont me faire du bien, parce que je pense que aujourd'hui les maladies nous parlent aussi, et je pense que la vie professionnelle, la vie personnelle, l'entourage et la manière dont on voit notre vie, c'est un ensemble. Et je pense que Rosie m'a permis de voir la vie un petit peu différemment et d'essayer d'avancer sur des projets qui ont du sens et qui vont m'accompagner pour cohabiter avec elle et pas la mettre de côté et surtout pas l'oublier.
Mille merci Marine Bernayas pour votre super témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec le professeur Thibaut Moreau. Il est neurologue au CHU de Dijon et président du comité scientifique de la fondation ARCEP pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques.
Sophie, 36 ans, témoigne au 39-21. Quand j'ai su que j'avais une sclérose en plaques, je me suis vue en fauteuil roulant. J'ai eu un long moment d'abattement, pardon, je me suis ressaisie. Je suis reconnue comme travailleuse handicapée et je suis maintenant dans un processus de reconversion professionnelle. Je vais réinventer ma vie.
Europe 1.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Marine, celui de Sophie. On aimerait vous entendre. Vous êtes atteinte d'une sclérose en plaques. À quoi ressemble votre quotidien ? Comment vivez-vous avec la maladie ? Ça concerne l'un de vos proches. On vous écoute au 39-21. Après les premiers signes, le choc du diagnostic, puis les poussées récurrentes et des symptômes quotidiens, vous souffrez de sclérose en plaques. Vous témoignez au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Thibaut Moreau, neurologue au CHU de Dijon et président du comité scientifique de la fondation ARCEP pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Alors tout d'abord, quelles sont les origines ? D'où vient cette sclérose en plaques ?
Alors, la sclérose en plaques, on pense que c'est une maladie qui est plutôt d'ordre multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs des éléments qui se mettent ensemble pour que la maladie puisse se déclencher.
Oui.
En particulier, il y a des événements, donc je dirais, qui viennent de l'environnement, qu'on a mal appréhendé, mais par exemple, on sait qu'il y a une grosse différence selon la zone géographique où on habite. Hein. Il y a probablement donc un gradient selon la latitude, et également des éléments de génétique qui interviennent avec donc un terrain génétique particulier qui fait qu'avec ces éléments d'environnement et puis une part malheureusement de hasard qui fait que la maladie peut se déclencher.
La maladie évolue sous forme de poussée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que c'est poussé? Comment se manifeste-t-elle?
Alors en fait, donc la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une attaque de la myéline. La myéline, vous savez, c'est la gaine qui est autour des voies nerveuses et qui permet au courant de passer rapidement. Ce qui veut dire que sitôt qu'il y a une attaque inflammatoire de cette myéline, vous allez avoir donc un dysfonctionnement, alors qui peut être moteur, c'est-à-dire de la force musculaire, par exemple, qui peut être visuel au niveau du nerf optique, ou de la sensibilité, par exemple, de moins bien sentir un membre, ou donc une impression de brûlure sur l'abdomen ou sur le visage, par exemple. Et donc ça, ça donne donc des manifestations cliniques, des symptômes de ce type, donc baisse d'acuité visuelle, par exemple, ou encore une fois une faiblesse d'une main ou d'une jambe. Et ça dure environ donc à peu près 3 à 4 semaines. Et puis il y a cette chose tout à fait extraordinaire dans la sclérose en plaques, c'est que ça récupère au bout de quelques semaines parce que le système nerveux a une capacité aussi d'auto-réparation, c'est-à-dire que cette myéline va au début bien se reconstituer, ce qui fait que donc il y a des à-coups qui succèdent. En général, les poussées sont environ une poussée tous les 18 mois environ. Malheureusement, souvent, au bout d'un certain nombre d'années, ces mécanismes d'auto-réparation ou les lésions répétées fait qu'il peut garder que les patients peuvent garder des séquelles, encore une fois, qu'elles soient d'ordre moteur, avec une gêne à la marche, par exemple, ou urinaire ou visuelle.
Alors, on sait aujourd'hui que 2 fois plus de femmes que d'hommes sont atteints de cette sclérose en plaques. Pourquoi une telle différence?
Alors c'est encore plus que ça, puisqu'en fait, il y a même une variation durant ces 40 dernières années, puisqu'il y a 40 ans à peu près, on avait 2 femmes pour un homme, et aujourd'hui, on a 3 femmes pour un homme, ce qui est une véritable révolution dans le domaine de l'épidémiologie. Vous savez, c'est la science de la distribution des maladies, mais on ne sait pas bien la raison. Alors probablement, il y a plusieurs hypothèses, des hypothèses que la vie des femmes a changé, elles travaillent plus, elles font des enfants plus tardivement, elles allaitent moins, elles sont passées d'un monde souvent plus rural à un monde urbain. C'est probablement un ensemble d'éléments, une espèce de changement d'habitus de vie qui fait qu'on a une augmentation, donc encore une fois, donc chez les femmes par rapport donc aux hommes, en sachant que c'est valable aussi pour d'autres maladies auto-immunes. Il y a même des hypothèses où on dit qu'on vit presque trop propre, et le fait d'être trop propre, c'est-à-dire d'être moins stimulé par des infections répétées ou de vivre avec une hygiène trop parfaite, fait que ça peut peut-être favoriser ces mécanismes auto-immuns, c'est-à-dire de propre attaque de son système de défense habituellement impliqué contre la lutte sur les virus et les bactéries, qui se met à attaquer les propres éléments du corps d'individu, à savoir la myéline dans la sclérose en plaques.
On écoutait Marine dans la première partie de cette émission qui nous disait avoir été diagnostiquée autour de l'âge de 21 ans. Alors, est-ce que c'est une maladie qui arrive plutôt dans ces âges-là, jeunes, ou est-ce que ça peut nous toucher plus jeunes? Et puis, bien évidemment, est-ce que c'est une maladie invalidante qui aura des conséquences sur notre vie? Est-ce que cette maladie réduit notre espérance de vie?
Alors, c'est vrai qu'à la majorité des scléroses en plaques, donc débutent entre 20 et 35 ans, on peut dire à peu près 2/3 des patients commencent entre 20 et 35 ans. Vous avez quand même 4 à 5% des scléroses en plaques qui commencent à l'âge pédiatrique, c'est-à-dire avant l'âge de 16 ans. Et puis on a des formes qui sont un peu différentes, qui sont des formes plus progressives qui commencent après l'âge de 40 ans. Mais habituellement, donc c'est entre 20 et donc 35 ans. Donc c'est vraiment donc une pathologie de la femme jeune. Alors, concernant l'espérance de vie, la prise en charge a été complètement changée de la sclérose en plaques dans ces 20 dernières années, en particulier en luttant contre les complications de la maladie, c'est-à-dire les complications infectieuses, du décubitus, le fait de ne pas faire de phlébite quand on est alité longtemps. C'est qu'en fait, l'espérance de vie est à peu près réduite de 7 ans, globalement, par rapport à un individu non atteint de cette maladie, ce qui est en fait globalement assez peu quand on sait que malheureusement, il y a des scléroses en plaques qui ont un handicap assez marqué.
Professeur Thibaut Moreau, je rappelle que vous êtes neurologue au CHU de Dijon et président du comité scientifique de la Fondation ARCEP pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Vous restez en ligne avec nous, vous allez continuer à nous accompagner durant toute cette émission. Dans quelques instants, nous accueillerons Steven. Il a appris il y a 7 mois, à 34 ans, qu'il était atteint de sclérose en plaques. Aujourd'hui, il apprend tout juste à vivre avec cette maladie.
Europe 1.
Vous êtes atteint d'une sclérose en plaques. Votre quotidien est rythmé par votre traitement et un suivi médical régulier. Arrivez-vous à mener une vie normale ? On vous écoute au 39-21.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Steven. Bonjour Steven, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Steven ?
J'ai 34 ans et je vous appelle Biscarros dans les Landes.
D'accord, je vois très bien. Magnifique coin, ce coin du sud-ouest de la France. Alors vous Steven, il y a 7 mois, vous avez appris que vous étiez atteint de la sclérose en plaques. Au départ, vous mettiez tous vos symptômes sur le compte de la fatigue. Vous ne vous doutiez pas que ça pouvait être ça, bien sûr.
Non, du tout, parce que si vous voulez, comme je travaille en horaire décalé, donc je travaille souvent de la nuit, et j'avais acheté une maison que j'étais en train de restaurer, je dormais pas beaucoup, donc j'avais beaucoup de symptômes qui étaient des faiblesses musculaires ou qui s'apparentaient à beaucoup de symptômes, malheureusement, de la sclérose en plaques que je mettais sur le compte de la fatigue, jusqu'au moment où j'ai été chez mon médecin traitant qui m'a dit non, mais là, il faut passer des examens plus poussés parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, au mois d'octobre, j'ai pris le coup de massue à 34 ans du diagnostic de la sclérose en plaques.
Mmh. Professeur Thibault Moreau, on entend Steven qui parle d'horaire décalé. Est-ce que le fait de dormir peu ou en tout cas d'avoir le cycle de sommeil perturbé peut être un facteur déclenchant de cette maladie ?
Oh, je ne crois pas que d'avoir des horaires décalés puisse déclencher une poussée inflammatoire de sclérose en plaques, mais encore une fois, souvent la fatigue est un facteur qui accompagne les premiers symptômes neurologiques, mais c'est souvent le fait, encore une fois, d'une attaque inflammatoire du système nerveux central. Mmh. Alors c'est sûr que d'être dans une atmosphère moins fatigante, peu stressante, est probablement plutôt favorable, mais pas suffisamment pour déclencher une inflammation du système nerveux.
Alors, on imagine combien, Steven, cette nouvelle a été difficile à digérer, parce qu'on se fait tous une image dramatique de cette maladie. Vous avez reçu vraiment une aide précieuse de la part de votre femme. Depuis l'annonce de la nouvelle, comment est-ce que vous vous adaptez ? Comment ça va dans la tête ?
Ça a été très très compliqué au début parce que je suis quelqu'un de très actif. Donc pour moi, comme vous disiez tout à l'heure, j'en avais une mauvaise image parce que je connaissais une personne malheureusement qui en est atteinte et qui est alitée, qui ne peut plus se lever, tout ça. Donc pour moi, ça a été un coup de massue parce que j'ai pris ça dans le sens où je ne pourrais plus rien faire. Donc ça a été un gros coup au moral pour moi et j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui a toujours été à mes côtés, j'avais le moral au plus bas, a su rester à mes côtés et me dire ça va aller. Enfin, a toujours eu, vous savez, les paroles réconfortantes qu'on a, on a besoin d'entendre, parce qu'on peut être un homme et avoir sa fierté, malheureusement masculine, vous savez, on ne veut pas l'être dit, et on s'aperçoit que... Je le dis très très sincèrement à votre antenne, je suis heureux d'avoir le soutien de ma femme aujourd'hui qui m'aide beaucoup à avancer dans la maladie parce qu'elle sait voir quand le moral ne va pas, mais elle sait être à mes côtés, elle sait avoir les paroles qui font justement avancer dans la maladie où on ne baisse pas les bras. Mmh.
Alors vous avez entendu Marine dans la première partie de cette émission qui évoquait l'importance de se reconnecter à soi-même, de bien se connaître et finalement de prendre les prescriptions, tous les traitements que l'on doit vous donner pour vous accompagner et vous soulager, mais aussi de bien se connaître, de bien se connecter à soi-même. Parce que le problème de la sclérose en plaques, c'est que c'est une maladie fantôme qu'on ne voit pas. On ne voit pas votre souffrance et qu'il est important que vous essayiez d'être le mieux possible avec cette maladie. Est-ce que vous en parlez autour de vous ? Est-ce que vous l'évoquez ? Vous évoquez ce que vous vivez ? Vous avez l'impression qu'on vous entend, qu'on vous écoute ?
Alors, j'ai la chance d'être très bien entouré par mes amis. Mais l'effet bizarre de la sclérose en plaques, c'est que, comme vous disiez, c'est une maladie fantôme. Donc je suis rentré dans un système où très peu de gens de mon entourage le savent, mais je suis rentré dans un système où je n'en parle plus parce que j'ai l'impression de me plaindre constamment, puisque comme vous disiez tout à l'heure, c'est souvent des douleurs quotidiennes et on vit avec ça, c'est un combat au quotidien qui fatigue beaucoup. Donc je suis rentré dans un système, alors j'ai eu au début le fait de ne pas vouloir en parler du tout, parce que pour moi c'était la fin du monde, comme je vous l'ai déjà dit. Après j'ai eu le fait d'en parler, ça me faisait du bien d'en discuter avec mon entourage et tout ça. Et maintenant, j'essaye de, pour avancer, que ce qui m'aide à tenir, c'est que je n'en parle plus. Je vis avec, même si j'ai des jours où c'est plus compliqué que d'autres, où c'est un combat quotidien contre son corps, quelque part. Je n'en parle pas et ça m'aide justement à me battre tous les jours, à me dire ça va aller, ça ira mieux, et pour pouvoir avancer. Pardon.
Et ce combat, je rappelle que vous le menez avec quelques membres de votre famille et que c'est un combat que vous menez avec eux. Et c'est important parce que de partager avec les siens, ça aide, ça renforce. Merci beaucoup et je vous souhaite bien évidemment plein de courage, Steven. Mais merci beaucoup pour votre appel cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Joëlle. Elle a été diagnostiquée en 2013. Elle apprend aujourd'hui à vivre avec la maladie.
Et Claudia témoigne. Au 39-21, Claudia a 38 ans. Je me suis réveillée un jour paralysée des jambes. J'ai dû réapprendre à marcher. J'ai suivi un traitement lourd et je l'ai arrêté pour pouvoir faire un bébé. Ma grossesse s'est étonnamment très bien passée, sans pousser. Même si je dois vivre jusqu'à la fin de ma vie avec la sclérose en plaques et avec ses séquelles, ce bébé est une victoire sur la maladie.
Europe 1.
On vous a diagnostiqué une sclérose en plaques, ça concerne l'un de vos proches. Comment vivez-vous avec cette maladie? Chaque jour, vous nous racontez votre histoire au 39-21. Ce jeudi 30 mai, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Comment cette maladie peut être pour vous invalidante? Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous allons dans quelques instants accueillir Joëlle sur l'antenne d'Europe 1. Mais Oubline, je repensais au témoignage de Claudia qui avait arrêté son traitement le temps d'avoir un bébé. Professeur Thibault Moreau, la sclérose en plaques diminue-t-elle l'espérance de vie ou peut-on vivre quand même assez longtemps avec cette maladie?
Oui, la durée de vie, je dirais, donc avec la sclérose en plaques, est assez comparable d'une personne qui n'est pas atteinte de cette maladie, puisque donc on considère aujourd'hui dans les grandes séries mondiales que l'espérance de vie est probablement donc diminuée d'environ 7 ans, ce qui est en fait peu, quand on sait que malheureusement il y a des scléroses en plaques qui ont un handicap marqué. Donc pour dire que, encore une fois, donc plus grande partie de l'existence se fait certes parfois de façon adaptée en fonction des handicaps qu'on peut avoir, mais de façon quand même harmonieuse avec des projets qui restent possibles.
Et nous accueillons Joëlle sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Joëlle, soyez la bienvenue.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors je suis à côté de Bourg-en-Bresse et j'ai 45 ans.
D'accord. Savoir que vous étiez atteinte d'une sclérose en plaques en 2013, pour vous ça a été un soulagement. Expliquez-moi pourquoi.
On a des mots MAX qui vous font mal et que personne n'arrive à comprendre pourquoi vous êtes fatigué tout le temps, pourquoi vous avez envie de dormir tout le temps, pourquoi vous ne pouvez pas faire la fête tout le temps. Et ben de mettre un mot MOT cette fois-ci sur des mots MAX, c'est rassurant.
Vous parlez donc de ces mots. Quels étaient ces symptômes, les douleurs dont vous souffriez?
J'ai eu une poussée assez violente où je me suis retrouvée en fauteuil pendant quelques temps, tous les mi-corps droits qui ne répondaient plus.
Alors, vous dites que les gens pensent que vous êtes saoul quand vous tanguez souvent. Le regard des autres, c'est quelque chose qui est difficile à vivre?
C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible parce que vous savez... Enfin, moi, je savais que je n'avais pas bu.
Oui.
Et quand vous voyez les gens qui attrapent leurs enfants en disant « Ah, voyez, c'est ça, oh, regarde la dame, elle a bu, ben, faut pas faire ça parce que c'est comme ça que tu vas finir. »
Oui, ça doit être particulièrement désagréable. Et là, on parle de ces fameuses poussées qui font perdre l'équilibre. La fatigue, c'est aussi très présente dans votre vie. Comment composez-vous avec au quotidien?
Comment on compose? On compose en faisant attention à soi, en s'écoutant, en continuant à faire du sport, parce que pour le coup, le sport, c'est une vraie fatigue.
Oui.
C'est pas une fatigue de la sclérose, c'est une vraie fatigue, donc c'est quelque chose de normal. En continuant à travailler comme on peut, pour ma part à mi-temps, parce que je peux pas plus, et en continuant à vivre, quand on sait qu'on a une soirée de prévue, et ben l'après-midi on dort, on se repose, la veille un petit peu aussi, on se couche encore plus tôt que d'habitude, et voilà, on essaye d'adapter. Voilà, on devient des super adaptateurs.
Pour vous, c'est très important de rester positif. Et comme Marine nous l'expliquait tout à l'heure dans la première partie de cette émission, d'accepter la maladie. Est-ce que ça a été un long cheminement pour y arriver?
Ça a été un cheminement un peu compliqué, mais grâce aux médecins du réseau CEP Rhône-Alpes, ça a été possible avec les kinés, les neuropsies, les psys, d'accepter la maladie, se dire « Ok, d'accord, je suis malade, mais je ne suis pas que ça. Et je ne suis surtout pas une CEP. »
Et au-delà de ces médecins, de ces kinés, est-ce que l'entourage aussi vous a aidé dans ce cheminement d'acceptation?
Alors moi j'ai un super mari, donc oui.
C'est quand même bien déjà, non?
Ah mais c'est génial. Non, c'est super. Non, j'ai un super mari qui a toujours été présent, qui est toujours venu avec moi sur toutes les séances, sur tout le début de la maladie.
Ouais.
Il a été très, 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 très présent. Il l'est toujours, mais il vient moins avec moi au rendez-vous parce que je vais plutôt bien. Donc, ça sert à rien. Il vient quand il voit que ça va vraiment pas.
Mmh. On voit encore combien l'entourage est important hein, dans ce cheminement qui est le vôtre aujourd'hui et celui de beaucoup d'autres malades de cette sclérose en plaques. Merci beaucoup Joël pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Charlotte. Aujourd'hui, sa sclérose en plaques fait partie d'elle et elle est même devenue une véritable force.
Europe 1.
Sur Europe 1, vous nous racontez votre quotidien entre les poussées provoquées par une sclérose en plaques, entre les symptômes, vos traitements. Comment vivez-vous avec la maladie? Votre histoire au 3921.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Charlotte. Bonjour Charlotte, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier,
bonjour.
Merci à vous.
Je vous en prie, merci à vous. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 36 ans et j'habite à Moulins, dans l'Allier.
D'accord. Alors, vous, Charlotte, vous avez mis du temps avant d'accepter de vivre avec la sclérose en plaques que l'on vous a diagnostiquée à l'âge de 26 ans. Au début, c'était inconcevable pour vous d'avoir cette maladie?
Vous utilisez le mot parfaitement juste, c'est inconcevable. Donc, le monde s'écroule.
On l'évoquait tout à l'heure avec Steven, vous aviez déjà entendu parler de cette maladie?
Très honnêtement, non, par le biais d'un acteur connu, un français que nous connaissons tous.
Oui.
C'est juste par ce biais-là que je connaissais la maladie.
Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience alors de cette maladie pour ensuite commencer à l'accepter?
Si vous voulez, quand le diagnostic tombe et quand vous êtes lourdement handicapé, ce qui a été mon cas pour ce qu'on appelle la poussée inaugurale,
oui.
Donc une paralysie totale de l'hémisphère droit, que vous ne pouvez plus vous laver les dents, aller aux toilettes, parler, marcher, donc à 26 ans,
oui.
Du jour au lendemain. D'un seul coup, le diagnostic tombe et de toute façon, il faut faire avec. On a 26 ans, il faut se réveiller, quoi.
Oui.
Il faut se lever et il faut du temps.
Mmh. Il faut faire avec. C'est vrai, je partage totalement votre avis, mais on imagine que vous parlez de poussée inaugurale. Il faut faire avec, mais ça doit être particulièrement violent à vivre, cette poussée, quand on n'est pas diagnostiqué.
Oui, c'est extrêmement violent. Alors moi, c'est allé assez vite quand même le diagnostic. Il a fallu un mois et demi.
Oui.
Il faut savoir qu'il y a des gens qui mettent 10 ans hein, avant d'être diagnostiqués. Donc je pense que c'est pire, parce que du coup, une fois qu'un diag tombe, c'est un petit peu comme un décès, hein, on peut en faire le deuil. Donc déjà, j'ai eu cette chance-là quand même d'avoir un diag assez vite.
Oui.
Après, concernant les proches, oui, c'est très important, vous le disiez tout à l'heure. Mais alors moi, l'équipe médicale, je dois admettre qu'il y a 10 ans, m'a très mal expliqué le diagnostic et c'est tombé de but en blanc du jour au lendemain. Ça a été très violent.
Oui. Malgré cela, vous vivez avec la sclérose en plaques et pas contre.
Oui, je le dis souvent, je vis avec et je ne vis pas contre elle. C'est-à-dire
pas contre
que
elle, ouais.
Non, elle me porte. Elle est là, mais elle y est pour rien, puisqu'elle est partie intégrante de moi. Donc,
oui.
De toute façon, c'est vous battre contre vous-même. C'est ça aussi, psychologiquement, c'est très complexe au départ. Et donc, moi, c'est vrai que je l'accompagne, elle m'accompagne. Donc, je l'écoute. Quand je suis fatiguée, je me pose un peu.
Mm-hmm.
Je vais moins vite. Mm-hmm. Voilà.
Oui, c'est aussi complexe à comprendre, à assimiler pour quelqu'un qui ne connaît pas le fait d'être malade. Et je pense à Marine tout à l'heure qui disait un petit peu la même chose que vous. Elle disait qu'elle l'avait appelée Rosie, cette sclérose en plaques aujourd'hui, que c'était beaucoup plus facile de vivre avec cette Rosie et puis de l'accepter. Vous avez un métier très prenant. Vous ne vous arrêtez jamais. Que faites-vous dans la vie? Et la maladie n'a pas été un frein?
Alors, non, moi, je suis attachée de presse au conseil départemental de l'Allier, donc.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de communication politique également. Donc, oui, c'est très prenant. Et non, ça n'a pas été un frein. Je pense tout simplement qu'on m'a peut-être aussi fait confiance. Et puis après, qu'on a reconnu peut-être mes qualités professionnelles, en tout cas. Et comme je ne suis pas en arrêt, je n'ai pas de poussée, etc., je ne suis pas absente.
Mmh. Non, mais ce qui est assez formidable, c'est que vous semblez avoir décuplé d'énergie depuis que vous avez votre diagnostic et que vous avez accepté de vivre avec et non contre la sclérose en plaques. C'est ce que la plupart des gens que vous fréquentez disent. Comment vous expliquez ça, que vous avez autant d'énergie, plus d'énergie même?
Mais vous avez tellement raison. Et je me dis que c'est peut-être comme... Il paraît que, vous savez, quand on est en situation d'urgence, on a d'un seul coup une force qui quadruple, on est capable de soulever des camions. Oui. On entend ça régulièrement dans les témoignages. Mm-hmm. Moi, je pense que j'en suis là. C'est-à-dire que depuis 10 ans, ça a mis un peu de temps, mais depuis 6-7 ans, cette force s'est décuplée. Vraiment, c'est cette envie de vivre, cette envie d'aller de l'avant, d'être avec mes filles, d'être avec, dans mon travail que j'adore, de profiter de la vie. Voilà, parce qu'on sait aussi que ça peut s'arrêter comme ça.
Mm-hmm. D'un coup. En cette journée mondiale de la sclérose en plaques, que diriez-vous de vous à ceux qui nous écoutent ? Est-ce que c'est votre côté combatif qui vous a sauvé et qui fait qu'aujourd'hui, vous continuez de mener une vie que vous trouvez belle encore ?
Oui, en fait, je trouve, mais plus que belle, magnifique. Moi, ce que je pourrais dire, en tout cas, pour moi, c'est que vraiment, tout vient de nous. Dans le présent, tout vient de nous. Mmh. Donc, si on se retrouve par terre, c'est aussi, peut-être pas qu'on l'a voulu, parce que c'est un petit peu difficile à entendre, mais c'est que quelque part, on n'a pas fait ce travail d'acceptation. Mmh. Une fois qu'on l'a fait, qu'on le prend vraiment à bras le corps, on a une impulsion et on y va. Mmh. Voilà, c'est vraiment ça.
Merci mille fois Charlotte pour ce témoignage si lumineux, parce que pour tous ceux qui se plaignent chaque jour de petits bobos, eh bien je pense que ça les aidera à relativiser les choses en écoutant vos mots, vos paroles Charlotte, et puis aussi ceux de Marine, de Steven et de Joël qui nous ont appelés aujourd'hui et qui nous ont fait part de leur quotidien et puis surtout de ce souhait de se battre et de continuer à aimer la vie et à la vivre pleinement. Merci aussi à Thibaut Moreau pour ses éclairages. Une fois le diagnostic de la sclérose en plaques posé, il semble indispensable de prendre le temps de le digérer, mais aussi d'adopter une forme de résilience. Si on ne peut ignorer la maladie, pour autant c'est vous qui décidez ce qui vous fait du bien, ce qui est important pour vous, comme le fait de continuer certaines activités par exemple, on l'a entendu avec Joël. L'entourage semble être un soutien indispensable pour souffler, pour s'évader. Il existe aussi des associations qui peuvent vous accompagner, comme l'Association française des sclérosés en plaques ou APF, France Handicap, qui vous donneront des conseils, qui vous accompagneront et qui vous feront partager l'espoir qui est le leur. Vous pouvez bien évidemment continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Oui, comme chaque jour, n'hésitez pas à faire vivre cette émission sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, de discuter entre vous et puis Instagram Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de la médecine ayurvédique, une médecine ancestrale indienne. Si vous pratiquez la médecine ayurvédique depuis longtemps et que cela vous soulage et soulage certains de vos maux, si vous commencez tout juste à vous y intéresser, si c'est pour vous et votre famille une sorte d'art de vivre, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là pour vous écouter. J'ai été ravi de passer cette heure à vos côtés, ma chère Ombline, et puis bien évidemment...
On se retrouve demain, mais avant, ce jeudi 30 mai, je me permets de vous souhaiter un très bon anniversaire, Olivier.
Merci ma chère, c'est
et
très gentil.
Et je pense que c'est partagé avec les auditeurs.
Merci beaucoup.
À demain.
À demain, à 16h, vous allez retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Et comme d'habitude, des tontons flingueurs particulièrement affûté, mon cher Carl.
Aujourd'hui, Olivier, les tontons flingueurs n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Car j'ai l'ex-braqueur François Besse et l'avocat Emmanuel Pira. Ce sont de vrais flingueurs.
Carl Zéro et ses tontons flingueurs, c'est à partir de 16h. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis, bien évidemment, à demain. Au revoir.